force par ton courroux. Car ils ont projeté de profaner tes lieux saints, de souiller la tente où repose ton nom glorieux, et de renverser par le fer la corne de ton autel. Regarde leur orgueil, envoie ta colère sur leur tête. Donne à ma main de veuve la force que j'ai préméditée. Frappe le chef et son esclave par mes lèvres trompeuses. Broie leur haute taille par ma main de femme. Car ta force n'est pas dans le nombre, ni ta puissance dans l'effort, mais tu es le Dieu des humbles, le secours des petits, le défenseur des faibles, le protecteur des abandonnés, le sauveur des désespérés. Voilà, j'arrête un peu. Lorsque la prière, elle se continue hein, longuement, mais après la prière, Judith va quitter ses habits de veuve, laver son corps et le parfumer d'une huile odorante, puis revêtir ses plus beaux habits de fête et tous ses bijoux. Donc en bref, comme dit le verset 4 du chapitre 10, « Elle se fit très élégante pour séduire les yeux des hommes qui la verraient. » On sait qu'elle est très belle. Et en plus, ses prières l'ont remplie de confiance en elle. Alors elle revêt son habit de lumière pour aller au combat. Elle charge une de ses servantes de divers aliments et de vins qui doivent servir d'offrande. Puis elles sortent de la ville et se rendent où ? Ben, dans le camp des ennemis. Alors quand elles approchent, le garde du camp les interroge et voici ce que lui dit Judith. Parce qu'il faut qu'elle se présente, elle dit « Je suis une fille des Hébreux ». Et je m'enfuis de chez eux parce qu'ils vont bientôt être livrés entre vos mains. Et je viens voir Holoferne, le général en chef de votre armée, pour lui apporter des paroles de vérité et lui montrer le chemin qu'il doit suivre pour devenir le maître de toute la région. Pouh. Donc le pari de Judith est réussi. Hein. Les soldats sont subjugués par sa beauté et charmés par ses paroles. Et donc, ils la font entrer dans leur camp pour aller rencontrer leur chef. Et puis, une fois devant Holoferne, il faut dire que véritablement, Judith va l'embobiner pour se faire admettre comme espionne, envoyée de Dieu. C'est se présenter comme l'intermédiaire idéal d'une conquête sans risque, en toute réussite. Donc, lisons chapitre 11, verset 19. Elle dit « Je te conduirai à travers la Judée jusqu'à ce que tu arrives devant Jérusalem. Je placerai ton trône en son milieu et tu les conduiras comme des brebis sans berger, sans qu'un chien de garde gronde contre toi. Car cela m'a été dit et annoncé selon ma préscience et j'ai été envoyé pour te le rapporter. » Ces paroles plurent à Holoferne et à tous ses officiers. Ils admirèrent sa sagesse et dirent « Il n'y a pas de femme pareille d'une extrémité de la terre à l'autre pour la beauté de son visage et l'intelligence de ses paroles. » Voilà, Judith a convaincu l'ennemi de sa bonne stratégie militaire qui va être accueillie donc, et elle sera admise dans le camp et traitée comme une reine. Elle obtint même le droit de continuer ses prières en sortant chaque soir du camp avec sa servante, car elle avait convaincu Holoferne de se convertir au Dieu d'Israël quand il aurait achevé son invasion. Après plusieurs jours, Holoferne va organiser un grand banquet pour tous et y inviter Judith avec l'intention évidente de la séduire. Lisons quelques versets, chapitre 13, versets 1 et 2. « Quand il se fit tard, les serviteurs se pressèrent de partir, on ferma la tente et ils allèrent se coucher. Tous, en effet, étaient fatigués parce qu'ils avaient trop bu. Judith seule fut laissée dans la tente avec Holoferne, effondrée sur son lit, car il était noyé dans le vin. » Judith se met alors à prier et ensuite, lisons quelques versets, s'avançant vers la barre du lit qui était à la tête d'Holoferne, elle en retira son cimetière. Puis s'approchant, saisit la chevelure de la tête d'Holoferne en disant « Seigneur Dieu d'Israël, fortifie-moi ». Puis elle frappa deux fois sur son cou de toute sa vigueur et elle lui ôta la tête. Peu après, elle sortit et remit la tête d'Holoferne à sa servante qui la mit dans sa besace à provision et elles sortirent toutes deux ensemble comme elles en avaient l'habitude pour aller à leur prière. Voilà, c'est donc ainsi que les deux femmes sortent sans être dérangées. Elles retournent dans leur ville. Et évidemment, la suite est de la même veine, hein, il faut dire. Judith exhiba la tête d'Holoferne en racontant son histoire et tout le peuple fit monter vers Dieu des prières d'action de grâce. Par exemple, « Tu es béni, ô notre Dieu, toi qui as anéanti aujourd'hui les ennemis de ton peuple. » Et de fait, en fait, comme Judith a aussi ajouté, « Prenez cette tête et suspendez-la au créneau de notre rempart. » Donc, visible de tous, l'effet fut radical sur les ennemis qui essayèrent de fuir dans tous les sens. Mais alors, ils sont rapprochés par les armées d'Israël qui se lancent à leur poursuite. Et c'est le massacre, tout ça est assez terrible, mais voilà, c'est la guerre, elle finit par la victoire d'Israël et le livre de Judith se termine au chapitre 16 par un long cantique d'action de grâce de Judith qui ensuite retourne à sa vie de veuve pieuse qui vivra, nous dit le texte, tranquillement jusqu'à 105 ans. Alors, que devons-nous retenir de ce récit aujourd'hui, à part dire que les guerres sont véritablement une horreur, mais qu'il faut tout faire pour arriver à vivre en paix? Alors, tout faire, mais jusqu'où? En tout cas, nous avons vu aujourd'hui que ces femmes se sont montrées particulièrement efficaces, courageuses, fortes, intelligentes, dans des circonstances incroyablement tragiques. Les visages de Déborah, Yaël et Judith nous surprennent et pourtant doivent encore être pour nous des modèles inspirants aujourd'hui. Parce que tout ça se fait dans la piété, dans la proximité de Dieu, leur vertu, leur courage. Elles doivent nous rester des modèles par leur sagesse, leur intelligence, leur audace à prendre la parole et à agir pour redresser des situations qui étaient devenues apparemment sans issue. Ce que la Bible nous montre, surtout, je pense, c'est qu'il serait vraiment dommage de se priver de tant de potentielles richesses humaines au nom de quelques ridicules idéologies misogynes. Et maintenant, il est temps de vous dire au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
C'est André de Chabannes pour écouter le meilleur du jazz, du blues, les toutes dernières sorties d'albums. Retrouvez-moi pour ce grand moment d'émotion dans Jazz à tous les étages.
Jazz à tous les étages, cet été, le samedi à 22h et le dimanche 23h.
fait de la même nature que toi. Des jambes, des bras, une tête en haut, je crois. Je me lève puis je mange, puis je dors. Et je respire. Je respire encore. Du chrétien, tous les clichés, tu les connais. Je ne vais pas détailler tout ce qu'il vaut mieux oublier. Tu pourras chercher tous mes défauts cachés. Ils sont faciles à trouver. Je n'ai pas de leçons à donner. Passe en moi. Ma vie a chaviré quand Dieu m'a rencontré. Je ne peux expliquer tout ce changement, cette tempête en moi. La phrase suivante, tu la connais par cœur. Si le bon Dieu existait, pourquoi y a-t-il tant de malheurs? Pourquoi ne me donne-t-il pas un petit coup de main parfois? Et pourquoi pas de là où organiser nos vies comme des robots? On lui donne rendez-vous deux, trois fois par an. Il y a Noël, les mariages, Pâques et quelques jours fériés. Est-ce que l'on est obligé de vivre l'adversité pour essayer de le chercher, pour se laisser désarçonner, pour se laisser, pour se laisser.
Des clé pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série que je vous invite à suivre. Au Jésus de grâce, change-moi. Seigneur, libère-moi de moi. C'est le titre d'un livre qui vient de paraître. Je reçois son auteur, Daniel Desbois. Bonjour Daniel Desbois.
Bonjour Nathalie.
Alors, psychologue clinicien, chrétien, depuis 33 ans. Vous avez vécu une conversion à l'âge de 47 ans. Vous pratiquez l'écoute psycho-spirituelle. Vous travaillez sur l'articulation entre la croissance psychologique et la croissance spirituelle. Et vous vous intéressez aux raisons qui amènent donc les personnes à résister bien souvent au changement. Voilà. Alors cette semaine, chers auditeurs, c'est un cadeau, hein, je l'espère. On est appelé à vivre ce changement, changement intérieur, changement qui amène à la conversion, conversion du vieil homme. Racontez-nous un peu la genèse de ce livre qui vient tout juste de paraître aux éditions Baudelaire, Daniel Desbois. C'est une longue histoire.
Oui, c'est une longue histoire.
On est prêt à écouter cette histoire.
Ben, j'ai toujours été confronté à la difficulté du changement pour beaucoup de personnes. Alors, bon, sur le plan psychologique, c'est difficile de changer, mais je vois que sur le plan spirituel, les personnes aussi bataillent au niveau de la conversion. Et ce qui m'a interpellé le plus, c'est que je me suis rendu compte que des personnes qui faisaient des retraites spirituelles, des formations spirituelles, elles revenaient enchantées, parce qu'elles avaient reçu la grâce, elles étaient bénies, elles étaient vraiment comblées parce que le Seigneur était passé. C'est sûr, c'est évident, elles viennent comblées de grâce. Et donc elles sont heureuses parce qu'elles ont été libérées, elles ont été délivrées, elles ont été sanctifiées. Alors, elles arrivent à la maison, pleines de joie. Elles arrivent pour déployer justement les grâces, les partager. Donc c'est reçu un peu plus ou moins bien. Quand c'est bien reçu, tant mieux. Mais ce qui m'a interpellé le plus, c'est que quand la personne revient chez elle, après une parenthèse d'une semaine, 3 ou 4 jours en session spirituelle, où là on est dans un cocon en fait spirituel, elle retourne dans le monde. Elle retourne dans le monde et elle retourne dans la famille. Alors il faut bien savoir que dans une famille c'est un système de fonctionnement où chacun a sa place et il y a une espèce d'habitude qui fait qu'il y a un certain équilibre de ce système qui fonctionne à merveille, que ce soit chaotique ou pas, peu importe. Une personne qui change, et qui change de trop, quand elle arrive, tout d'un coup, il y a une perte des repères habituels. Et je me suis rendu compte que les personnes, après, alors qu'elles essayent justement de contaminer l'autre par la joie, par l'amour, il y a une lutte en elle, parce qu'elle elle essaie de passer. Quand elle passe, alléluia, parce qu'il y en a qui passent, heureusement. Mais je me suis rendu compte quand même qu'il y en a beaucoup qui reviennent, 3 ou 6 mois après, et je les ai en face de moi, et elles me disent « Je suis redevenu comme avant ». Je veux dire, mais c'est presque le titre d'un livre, ça. « Je suis redevenu comme avant ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là, c'est l'objet du livre. C'est ce qui m'a, voilà, ce qui m'a amené à, voilà, parce que on m'y a poussé un peu. Et puis tant mieux, en fait. Au début, j'étais pas favorable pour l'écrire, mais en fait, je me rends compte que le bon Dieu a fait ce qu'il fallait, là, pour que je plonge un peu dans la piscine. Et voilà, mais ce qui m'a vraiment incité à le faire, c'était, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe pour pouvoir aider autrement.
Alors, pour comprendre ce qui se passe, faut-il vouloir comprendre ce qui se passe, Daniel Desbois? Parce que c'est une aventure, vous en parlez de cette aventure, oui, dès le début.
Oui.
Une aventure qui conduit dans un désert silencieux parfois, oui, avec ses tentations, et puis ses traversées, ses dépouillements, et au fond, ce désert dépouille, hein, ce désert fait peur.
Ben oui, quand elle vient, en principe, la personne, elle vient parce qu'elle est déçue de ce qui s'est passé. Elle était bien, elle est moins bien, ou elle n'est pas bien. Elle est comme d'avant, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, je suis redevenue comme avant. Donc, elle se retrouve un peu ligotée dans une forme d'esclavage. Mais comme les Égyptiens, comme les Hébreux en Égypte, esclavage. Mais quand on voit l'Égypte, comment ça s'est passé, les Hébreux, les Juifs, ils ont crié vers Dieu. Donc elles viennent justement pour crier vers le bon Dieu, dire « il faut que tu me sortes de là ». Évidemment, on rentre du fait qu'elle souffre. C'est pour ça qu'on va, ce qui va lui donner le désir de reprendre en fin de compte le cheminement, c'est qu'elle souffre. Elles ont perdu la grâce, elles veulent la retrouver.
Parce que cette grâce, elle est trop bonne, elle est source de paix, elle absolument. Est source de joie.
Oui, absolument. Elle a tous les ingrédients du bonheur céleste, quand elle arrive. Et puis après, il y a un combat. Alors, au début, je me disais, bon, la personne, elle est dans un combat spirituel, elle n'a pas pu transformer la grâce qui était reçue. Je le croyais vraiment fermement, cela. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que non. La grâce est donnée, elle n'est pas reprise. C'est évident. Mais elle n'arrive pas à la transformer malgré ses efforts sur le plan humain. Et c'est ça qui est difficile à dire en fin de compte, parce que je lui dis à un moment, la personne, je lui dis, mais vous n'êtes pas dans un combat spirituel.
Le combat spirituel, il faut savoir aussi le discerner. Ce n'est pas toujours de l'ordre d'un combat spirituel. Et là, il ne faut pas se tromper. Donc il faut bien agir, il faut bien comprendre ce qu'il se passe, finalement, chez moi. Voilà.
Oui,
donc il faut être guidé.
Oui, c'est ça.
Alors, on cherche comment les bons guides aujourd'hui, Daniel Desbois, auprès des professionnels, des thérapeutes, d'un accompagnateur,
son prêtre. Le prêtre, bien sûr, le prêtre qui est là, qui accompagne la personne pour la rassurer, en fait, parce qu'elles ont besoin d'être rassurées, consolées, pour être remises sur le chemin d'espérance, vous voyez. Parce que sinon, ça fait mal.
Les personnes sont bouleversées, elles ont trop mal, elles souffrent trop.
Et oui, parce que, et c'est là qu'elles disent, je suis dans un combat spirituel. Ça n'est pas un combat spirituel pour la plupart.
Alors expliquez-nous.
Elles sont dans un combat psychologique. C'est-à-dire qu'elles retrouvent les travers du vieil homme, de la vieille femme.
Donc tous les mauvais mécanismes.
Les mauvais mécanismes, les anciens mécanismes qui ont été construits, bâtis sur la blessure.
Voilà,
les blessures
d'enfance. Et là vous en parlez dans cet ouvrage.
Oui.
Vous parlez de ces premières blessures qui apparaissent dès
absolument,
la petite enfance.
Absolument.
Et dans ces périodes aussi de l'adolescence.
Oui, parce qu'elles construisent, tout individu construit sa personnalité sur la base de ce qu'il a vécu enfant. Quand il est très blessé, ou moins blessé, ou pas trop blessé, on est de toute façon blessé. L'enfant, il construit sa personnalité là-dessus parce qu'il va faire avec le milieu qu'on lui propose. Si c'est un milieu qui est néfaste, il va faire avec. Si c'est un milieu qui est complètement favorable parce que l'amour circule, il y a une communion, il y a vraiment une circulation de l'amour... c'est déjà moins difficile. Mais quand on est dans des situations qui sont lourdes, que les blessures sont profondes, ben elle va se construire, la personne, sur ses blessures.
Donc le petit enfant est capable de se construire, quel que soit le contexte familial, même s'il est difficile. Donc l'enfant va
s'adapter
pour survivre.
Pour survivre.
Vous en parlez de cette survie.
Oui, j'en parle, oui. Il s'adapte parce qu'il est obligé. Il est dans un milieu... compliqué ou pas,
hostile,
il faut qu'il fasse avec. Et un enfant a une aptitude d'adaptation qui est phénoménale, parce qu'il cherche l'amour. Quand on est blessé, enfant, on a besoin de sécurité, on cherche l'amour, il va tout faire pour récupérer l'amour. Et c'est ce qu'il fait, et c'est bien qu'il le fasse. Mais des fois, pour récupérer l'amour, il va entraîner une torsion du naturel de l'enfant. De l'enfance. Parce qu'il y a en face de lui un adulte ou une adulte qu'il veut récupérer, en fait, parce qu'il sent qu'il n'est pas tout à fait estimé ou accueilli, tout simplement, dans un amour. Vous savez, un enfant, quand il vient dans une famille, l'enfant est fait pour l'amour. Tout individu est fait pour l'amour. Donc, quand il vient dans un milieu, lui, il vient et il attend et il espère un amour infini. Un amour infini. Il attend de ses parents qu'ils soient comme le bon Dieu. Parce qu'il est inscrit pour avoir cette grâce de l'amour total. Mais il tombe dans un milieu familial qui est ce qu'il est. Et donc il va devoir faire avec. Et dans la mesure où il fait avec, il va entraîner une contorsion de sa véritable personnalité. Il va se construire sur une fausse personnalité. Et quelque part sur un mensonge plus tard. Et quelque part encore plus tard sur des péchés. Il va se construire là-dessus. Donc vous voyez, la personne, quand elle a fait une session... qu'elle se trouve libérée de tout cela et qu'elle revient après, et puis après 3 mois, 6 mois, il y a une descente qui est à nouveau un peu dans ses enfers, quoi. Et qu'elle se retrouve avec des vieux mécanismes, elle ne comprend pas. Mais c'est pas un combat spirituel, c'est un combat psychologique. Le combat spirituel, le vrai combat spirituel, il est, disons, il est, il arrive au moment où la personne est vraiment et totalement libérée, délivrée.
Donc libérée de son esclavage.
Libérée de son esclavage.
Libérée de tous ces mécanismes d'une
Absolument.
Petite enfance blessée,
Absolument.
D'une adolescence blessée.
Voilà, c'est ça. Elle a fait comme les Juifs. Dans le désert, elle a fait son parcours pour arriver.
N'oublions pas, 40 ans. Hein,
40 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'au bout d'un an seulement, ils auraient pu arriver en Terre promise, passer le Jourdain. Mais bon, il y a eu des histoires, hein, bon, c'est avec les espions qui ont été envoyés, puis voilà, les discordes qu'il y a eu.
De relire aussi voilà. Ce passage biblique important, c'est l'histoire de l'homme.
Mais ce qui veut dire que une année, ce peuple juif, une année, il aurait pu passer de l'autre côté, en terre promise, mais il n'était pas prêt. Il a été libéré physiquement, mais pas spirituellement. Et pour être libéré spirituellement, ben, le bon Dieu, il a dit, allez, vous allez retourner 40 ans, hein. Dans le petit désert intérieur. Et ce désert intérieur, on fait comme les Juifs, on les suit et on rentre dans notre désert intérieur pour accéder à la véritable libération, la véritable conversion. C'est là qu'il va y avoir le combat spirituel.
Mais on ne peut pas éviter de traverser ce désert intérieur.
On ne peut pas. Et puis heureusement. Heureusement, parce que sinon, le bon Dieu nous aurait fait parfait, hein, comme il le souhaite.
Donc c'est un lieu, ce désert est un lieu non pas que de malédiction.
C'est un lieu de bénédiction.
Mais de bénédiction,
absolument.
Donc ce désert est fertile.
Il est fertile, bien sûr.
On n'est pas dans la stérilité du désert.
Voilà,
hein,
quand on est dans l'espérance de la terre promise. Quelqu'un qui n'est pas dans l'espérance, il reste, il tourne dans le désert. Et là c'est plus fertile, là c'est plus une bénédiction, ça devient une malédiction.
Et ouvrage. Oui. Je rappelle que cette série est consacrée un peu à ce livre qui vient de paraître, Daniel Desbois. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, une longue expérience, et que vous venez donc d'écrire ce livre paru aux éditions Baudelaire, « Ô Jésus de grâce, change-moi, Seigneur,
sous-titre,
Seigneur, libère-moi de moi ». Tout est dit dans ce titre. Voilà. Mais tout n'est pas dit dans cette série. Je vous propose de vous retrouver ici même, demain, à la même heure. Et merci.
Merci Nathalie.
Présence. Des clés pour vivre, l'intégrale.
C'est un deuxième épisode de cette série des clés pour vivre, une série consacrée à ce livre qui est paru récemment aux éditions Baudelaire. Son auteur est psychologue clinicien, Daniel Desbois, que je salue. Et bonjour Daniel.
Bonjour Nathalie.
Merci de votre fidélité. Ce livre s'intitule « Ô Jésus, de grâce, change-moi. Seigneur, libère-moi de moi ». On l'a bien compris. Ce livre se présente en deux parties, avec une première partie qui est l'approche psychologique du changement qui mène à soi, et une deuxième partie de l'ouvrage sur une approche spirituelle de ce changement intérieur et de cette conversion surtout. Voilà. Alors vous abordez tous ces thèmes-là, et le thème aussi de la croyance, et cette croyance peut être toxique, peut freiner aussi le cheminement intérieur, psychologique et spirituel de l'homme, quand cette croyance, eh bien, on s'y accroche, on s'y maintient, peut-être par crainte, par peur. Expliquez-nous un peu ces mauvaises et fausses croyances bien toxiques pour le cœur de tout homme, en vue du changement et en vue de cette finalité de la conversion, Daniel.
Alors, hier je parlais de la blessure de l'enfant, et je disais que l'enfant, en quête éperdue d'amour, va tout faire pour le récupérer s'il n'a pas la dose qui lui permet de croire en la vie et de croire en lui-même. Quand ça ne vient pas, et la plupart, on est tous plus ou moins blessés, du fait que l'enfant est obligé de s'adapter, il va se positionner, dès qu'il a l'âge de raison, c'est-à-dire à 3-4 ans, 4 ans, 5 ans, il va poser une décision ou une croyance qui va lui permettre après de s'adapter, non seulement de s'adapter, mais de vivre. Mais seulement, quand la blessure est profonde, je vous donne un exemple tout simple, qui se répète souvent. Quand un papa n'est pas valorisant pour son enfant, si cet enfant n'est pas valorisé, puis qui fait tout et qui se démène pour y arriver à l'école, avoir un petit peu de résultats, mais le papa est excessif dans ses attentes. Il est trop excessif. Il attend plus de l'enfant, et l'enfant, il ne peut pas donner ce plus que le père attend, c'est-à-dire que l'enfant est loupé. L'enfant est à côté de l'attente du père, et ça le désole parce qu'il sent que le papa ne l'aime pas, il le vit comme ça, il a l'impression que le papa ne l'aime pas, même s'il l'aime, hein, son père. Il a l'impression qu'il n'est pas... Mais il peut poser une décision, par exemple, ou une croyance, il peut poser la décision que jamais j'arriverai à prouver à papa que je suis quelqu'un de bien. Ce qui va devenir, à mesure que les années passent, jamais je n'arriverai à prouver à quelqu'un que je suis quelqu'un de bien. Et inconsciemment, il va faire ce qu'il faut pour ne pas être quelqu'un de bien, pour prouver qu'effectivement, ben voilà, c'est nul. Et c'est dramatique, parce qu'en fait, c'est faux. Je vois des personnes qui vivent sur ce mode de la nullité, quoi, du rejet et de la nullité. Et en fin de compte, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intelligentes, et pourtant elles se vivent comme étant nulles. Et elles brident inconsciemment, elles brident leur intelligence pour garder cette certitude, cette vérité, qu'elles sont nulles. Donc il faut les déloger de là, pour qu'elles trouvent en fin de compte un potentiel de vie, d'intelligence, d'aller vers et de croire en l'amour et en elles-mêmes, qui ne peut qu'être en fin de compte le seul chemin d'espérance. Arriver à toucher la vérité qui l'habite. La vérité, c'est qu'on est quelqu'un de bien. Tous, on est tous quelqu'un de bien. Ce petit garçon, cette petite fille est quelqu'un de bien. Mais quand elle est déformée par la blessure, elle peut penser qu'elle n'est pas tout à fait ou qu'elle n'est pas du tout. Alors déjà, cet enfant qui est devenu un adulte, qui a 30 ans, 40 ans ou 50, il ne sait pas qu'il fonctionne comme ça. Il ne le sait pas. Il est dans l'ignorance de ceux qui le construit ou ceux qui l'a construit. Le problème est là. Donc évidemment, si tout d'un coup il se rend compte qu'il n'est pas, parce qu'on ne lui a pas permis d'être reconnu dans ce qu'il est, il a tout fait pour être reconnu dans ce qu'il fait. Peut-être même dans ses avoirs. Quelqu'un qui va avoir beaucoup, qui peut être même riche, hein, concrètement, qui peut être très riche, il peut être vide à l'intérieur de son être. Et il vit par son avoir. Donc vous voyez, tant qu'il n'a pas conscience qu'il s'est construit justement faussement, sur une fausse personnalité, eh bien, il ne peut pas changer. C'est au moment où, de toute façon, c'est toujours la souffrance qui amène à se poser des questions et qu'il découvre qu'effectivement, il y a tout un, sur la base de sa blessure, de non-reconnaissance, par exemple, dans cet exemple, il se rend compte qu'il s'est construit faussement en essayant de donner des preuves qu'il était quelqu'un de bien, mais on n'a pas à prouver qu'on est quelqu'un de bien. On est quelqu'un de bien, aux yeux de Dieu. Eh oui, mais pas aux yeux de papa, ou peut-être pas aux yeux de maman. Et c'est ça qui fait l'amorce du changement, c'est déjà d'avoir conscience que j'ai répondu à quelqu'un, mais en fin de compte, je ne dois rien, sinon l'amour. Mais ce qui est du négatif, ça ne lui appartient pas.
Alors qu'est-ce qui peut faire prendre conscience, une trop grande souffrance, une épreuve,
oui, c'est
qui
la
tombe
souffrance,
dessus.
Voilà, c'est la souffrance qui va amener à qu'est-ce qui se passe, à se poser les bonnes questions. Et des fois, on arrive dans des extrêmes. Il y a des personnes qui peuvent rapidement se poser des questions quand la souffrance est là. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus durs et qui doivent, ils sont dans le dur, même dans le cas, c'est vraiment un cœur dur, hein, même fermé, et qui à un moment ils n'en peuvent plus. Vous savez, le burn-out, il sert à ça aussi. Hein. Le burn-out, c'est...
Alors qu'est-ce qu'il dit, oui, justement, ce burn-out, aujourd'hui?
Ben, ce qu'il
dit, on en parle beaucoup.
Ce qu'il dit, c'est que, bon, il y a la pression de l'autre. Il faut voir que la personne, elle ne veut pas aller jusqu'au bout du bout qui va l'amener dans une difficulté. Mais ça fait partie de la mentalité. Il faut presser le jus. Il faut presser pour avoir davantage. Mais la personne, quand elle est pressée comme ça pour donner satisfaction et avoir un retour positif, à un moment, elle est usée. Mais c'est pas naturel. Elle a pas envie de cela. Elle est obligée. Donc évidemment, à un moment, elle va sombrer. Quand elle dépend de quelqu'un. Mais il y a des personnes qui sont responsables d'elles-mêmes. Elles dépendent que d'elles-mêmes et qui peuvent aller dans ces excès. Là, c'est toujours pareil. Exister au travers de la voir. Mais quand tu as une belle image aux yeux des autres et que tu as l'impression d'avoir une belle image aux yeux de toi, parce que tu as une belle image aux yeux des autres, ça ne prouve rien. Quelle est l'image que tu as aux yeux de Dieu ?
En fait, c'est ça la bonne question.
Oui.
Qui conduit aussi à cette, finalement, liberté intérieure. Ouais. On quitte cet esclavage de ce besoin aussi du regard des autres.
Absolument.